Bonjour à tous et bienvenue à bord de l'Instant M, la seule émission qui a à la fois l'œil qui frise et l'oreille en coin.
C'est ça quand on est en direct.
Un instant M ce matin avec un M comme Mazette. Regardez voir la somme que ce documentariste a produit. 2h20 de film consacré à l'histoire du mouvement anarchiste de 1840 à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est la toute première fois que la télévision explore ce sujet avec autant de minutie. Et c'est vous qui êtes l'auteur de cette fresque tout à fait passionnante. Bonjour Tancred Ramonet.
Bonjour.
L'anarchie, on a tout juste un quart d'heure pour en parler sous l'œil souverain de ce lui qui est ici, mi-dieu, mi-maître, l'afficheur numérique de la pendule de France Inter qui m'indique à l'instant qu'il est tout juste 9h42.
L'instant M, Bruno Donnet.
Qui sont-ils? D'où viennent-ils et que pensent-ils? Ceux qui, hier comme aujourd'hui, se disaient anarchistes. Pourquoi, alors qu'ils furent fichés, leurs visages nous demeurent-ils étrangers? Pourquoi leurs pensées semblent-elles confuses et leur histoire si inquiétante?
Tancred Ramonet, je le disais dans le préambule de cette émission, c'est la toute première fois que la télévision se penche à ce point, avec autant de détails et autant de temps, sur l'histoire du mouvement anarchiste. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous plonger dans ce thème et combien de temps avez-vous mis pour recueillir les informations, les témoignages et pour réaliser ces 140 minutes de documentaire?
J'ai eu envie de m'y intéresser d'abord parce que cette histoire n'avait pas été racontée, comme vous le disiez. Il y avait eu des focus sur des événements de l'histoire de l'anarchisme. On avait parlé de la bande à Bono, de Ravachol, ces moments un peu spectaculaires. Il y avait eu aussi des documentaires sur l'histoire de la guerre d'Espagne, sur la révolution ukrainienne de Makhno. Mais il n'y avait jamais eu d'histoire complète en documentaire de l'anarchisme, alors qu'il y en avait du communisme, des différents fascismes et même du féminisme.
Et alors, combien de temps ça vous a pris, ce travail?
Et donc, ça a pris 5 ans.
Wow.
5 ans de travail, de lecture, de rencontres, voilà, dont on verra le fruit ce soir.
Alors, votre film commence en 1840 avec un homme, Pierre-Joseph Proudhon, un typographe que vous considérez comme le précurseur de l'anarchisme en France. Pour quelle raison est-ce que vous avez choisi d'ouvrir avec lui?
Mais Proudhon, c'est le premier qui se dit anarchiste de manière positive, qui revendique le terme. Jusqu'alors, l'anarchisme, c'était le mot était utilisé comme synonyme de désordre et de chaos. Mmh. Et Proudhon, dans son célèbre essai « Qu'est-ce que la propriété ?», en plus de la phrase qui est connue, qui est « La propriété, c'est le vol ».
Ça, c'est la réponse qu'il apporte.
Oui. Oui. Il dit, il se déclare anarchiste pour la première fois, et il même complète en disant « Quoique très ami de l'ordre, je suis dans toute la force du terme anarchiste. » Et donc, c'est le premier à se revendiquer, à se réclamer de manière positive de l'anarchisme.
Alors, Proudhon, c'est un peu un fondateur, puisque il y a Tolstoï et Marx qui vont se référer à lui et le citer dans leurs ouvrages respectifs.
Oui, alors, dès le début, il faut savoir que la pensée... Alors, Proudhon, d'abord, il a une particularité, c'est que c'est un ouvrier. Il est un ouvrier typographe, donc c'est un des seuls penseurs révolutionnaires qui vient de la classe ouvrière. Et aussitôt, sa pensée résonne dans le monde entier. Tolstoï, en Russie, on entend parler. Marx le considère comme le héros du socialisme français. Bakounine vient le voir et il fait des émules un petit peu partout, même un émule grec qui émigre au Mexique et qui va importer l'anarchisme au Mexique.
Alors on avance un peu dans l'histoire et dans l'histoire de l'anarchie, surtout on fait un bond de 30 ans en avant carrément, car vous vous arrêtez longuement sur une période terrible, 1871, c'est la commune de Paris, 73 jours d'une insurrection abominable, une insurrection qui sera réprimée dans le sang, et ce sang, c'est celui des communards, hein. Mais vous dites que c'est aussi le sang des anarchistes qui étaient aux premières loges. Alors, on va en parler, mais juste avant, je voudrais qu'on écoute un extrait de votre documentaire pour bien comprendre, pour bien prendre la mesure de ce que fut l'écrasement de cette révolte. Vous êtes allé interroger un historien, il s'appelle Jean-Yves Mollier, et voici ce qu'il dit à propos de la façon dont est réprimé ce soulèvement.
Un massacre dont on n'a pas idée aujourd'hui. On a longtemps discuté sur le nombre de morts. 25 000, 30 000, c'est probablement plus près de 20 000. Mais tuer avec les fusils de l'époque, plus, mettons 20 000 personnes en une semaine, c'est quasiment impossible. Ça veut dire que si on a arrêté de tuer le 28 mai 1871, c'est parce que la terre de Paris, parce que les caniveaux, parce que les égouts n'arrivaient plus à absorber le sang.
Les égouts n'arrivaient plus à absorber le sang, ça fait froid dans le dos et vous montrez, Tancrède Ramonet, que c'est un épisode fondateur de l'histoire de l'anarchisme, car après ça, les anarchistes acquièrent une conviction, celle que si on agit pacifiquement, eh ben on se fait massacrer.
Oui, alors c'est même un moment fondateur dans l'histoire du mouvement ouvrier. Alors juste votre langue à fourcher, c'est pas la Commune de Paris qui est un moment effroyable, l'insurrection de la Commune de Paris, c'est vraiment sa répression qui est effroyable. Oui. Puisque effectivement, comme le raconte Jean-Yves Mollier, la troupe tire sur des femmes, des hommes et des enfants pratiquement au hasard. Hein. Et oui, c'est un événement fondateur parce que les ouvriers comprennent que la lutte contre la bourgeoisie est une lutte à mort à ce moment-là, et que eux qui avaient voulu, pendant la Commune de Paris, abolir la peine de mort, partager les richesses, mettre en place une démocratie directe, voulaient seulement ça, seulement la justice et la liberté, ont vu que la bourgeoisie à ce moment-là envoyait la troupe, et il faut se rappeler qu'on était juste à la fin de la guerre contre la Prusse, et que la Prusse et la France qui était défaite se sont liguées pour écraser la Commune de Paris. Mmh. Et donc, on va avoir en quelque sorte, 20 ans plus tard, la génération qui vient après, qui va être dans une position qui est beaucoup plus hostile et beaucoup plus violente.
Alors, ce que vous montrez très bien également, c'est que le mouvement anarchiste, c'est tout sauf un rassemblement d'enfants de cœur. Hein. C'est un mouvement violent qui prône ce qu'ils vont appeler la propagande par le fait. Et les faits que certains de ces propagandistes appellent de leur vœu, eh bien, ce sont tout simplement des attentats, ou tout au moins des violences absolument extrêmes.
Oui, alors l'anarchisme, dans les années 90, on est dans une période de reflux révolutionnaire, la fine fleur du prolétariat a été coupée au moment de la semaine sanglante et de l'exécution des ouvriers, et donc il y a des individus qui se disent que peut-être que eux tout seuls, ils peuvent réussir à précipiter la révolution. Que, avec une bombe, on vient d'inventer la dynamite, cette nouvelle arme inventée par Nobel peut faire plus de dégâts qu'une armée. Et donc, ils se disent que, en posant une bombe, on peut faire tomber les têtes couronnées, les chefs d'État, et que le vide qui va se créer là va précipiter la révolution.
Alors, vous parlez des chefs d'État, c'est intéressant. On peut rappeler que, dans les années 1890, le fameux Ravachol pose des bombes dans Paris, et qu'en 1894, le président de la République, qui s'appelle Sadi Carnot, eh bien, il meurt assassiné sous les coups de couteau d'un jeune anarchiste italien qui a tout juste 20 ans, au motif que le président de la République a refusé d'accorder sa grâce à Ravachol.
Oui.
Donc c'est violent quand même. Hein.
Alors c'est violent, les bombes de Ravachol n'avaient tué personne, hein, et Ravachol a été condamné à mort. Il y a ensuite Auguste Vaillant qui jette une bombe dans l'Assemblée nationale. Sa bombe ne tue personne et il est aussi condamné à mort.
Alors, ce que vous montrez en creux, c'est qu'en fait les bombes de Ravachol, en fait, le pouvoir en place va les monter en épingle.
On va se servir de Ravachol pour faire un peu la caricature de l'anarchisme, de l'anarchiste en poseur de bombes. Dans le même temps, il faut savoir que il y a l'autorisation des syndicats. Les anarchistes sont les premiers à s'organiser dans les syndicats, qu'ils créent les bourses du travail, ils créent la CGT, et qu'on va essayer d'occulter ce mouvement collectif, cette organisation des révolutionnaires, en faisant émerger des figures comme celle de Ravachol, qui sont des figures, disons, qu'on va faire passer pour des apôtres de la destruction. Mmh. J'insiste sur un point, cela dit, c'est que si Ravachol pose ses bombes à Paris, il les pose devant la porte d'un procureur et d'un juge qui viennent de condamner à de très lourdes peines de prison deux manifestants qui manifestaient pour le premier 1er mai qui avait lieu en France, première fête des travailleurs qui avait lieu en France, et que ces manifestants avaient été condamnés à de lourdes peines de prison seulement parce qu'ils arboraient un drapeau rouge ou un drapeau noir. Et que Ravachol pense à ce moment-là impressionner la justice. Mmh. Donc la violence, elle est, je montre dans le film que la violence, c'est une escalade de la violence dans laquelle souvent les révolutionnaires et les anarchistes en particulier ne sont pas les premiers à verser le sang.
Alors, en dépit de son côté extrêmement brutal, vous montrez que le mouvement anarchiste va séduire une très large partie de la population, les intellectuels d'abord, comme Zola par exemple, qui dit l'intérêt qu'il porte à ce courant dans un roman méconnu qui s'intitule Paris, les intellectuels mais surtout les femmes qui n'ont, rappelons-le, à l'époque ni le droit de voter, ni celui d'avoir un compte en banque, et qui vont être très bien accueillies par les anarchistes.
Alors le mouvement anarchiste, il faut se rappeler qu'il est majoritaire à la veille de la Commune de Paris. Il est majoritaire au sein de l'organisation de l'Association internationale des travailleurs. Et c'est un mouvement qui s'est étendu dans le monde très rapidement et qui a créé des grandes fédérations déjà en Espagne, au Mexique, un peu partout dans le monde. Et qui a la particularité, dès le début, non pas seulement de s'intéresser à la question de la lutte des classes, qui est donc l'opposition entre les travailleurs et la bourgeoisie, mais aussi à toutes les formes de domination et de discrimination. Et donc, les anarchistes sont très sensibles à la question coloniale, ils sont très sensibles aux droits des femmes, aux droits de toutes les minorités, ils sont très sensibles aussi aux questions de l'individu, du bonheur individuel, et même déjà du respect de la nature. Mmh. Et donc, oui, il y a parmi les anarchistes de grandes figures féminines, comme Emma Goldman, qu'on appelait la femme la plus dangereuse d'Amérique.
Louise Michel,
évidemment, qui est convaincue d'anarchisme en étant condamnée au bagne après la Commune.
Il y a des sections féminines dans tous les syndicats.
Oui, et les femmes anarchistes sont aux avant-postes. Hein. Il faut se souvenir, et il faut voir les images, qui sont des images très méconnues qu'on met dans le film, de grands congrès où ce sont les femmes qui sont en tête d'affiche et qui font venir la masse des travailleurs.
Alors, parmi les modes d'action des anarchistes, il y a la violence, bien sûr, mais pas que. Il y a surtout la grève, et même mieux que ça, la grève générale.
L'idée peut paraître simpliste vue d'aujourd'hui. Mais elle est en même temps révolutionnaire. Si toutes les usines s'arrêtent de travailler, comment les capitalistes pourront-ils continuer à toucher leurs capitaux, à toucher leurs dividendes, puisqu'il n'y aura plus rien ?
Tancrède Ramonet, comment expliquez-vous que la grève générale, ça n'a jamais suffi ?
Oh ben la grève générale, ça suffit parfois un peu. Regardez par exemple en ce moment en Guyane, la grève générale, ça a servi en 68, ça a servi en 95 aussi.
Je parlais du côté jusqu'au boutiste, évidemment.
C'est-à-dire pourquoi ça n'a pas précipité des révolutions. La grève générale est un des moyens dans l'arsenal révolutionnaire qui est non pas, alors Jean-Yves Mollier là le dit ici, c'est que c'est une manière de créer un rapport de force, mais disons il y a le phénomène insurrectionnel qui doit être en quelque sorte l'aboutissement de la grève générale.
Alors en 1914,
c'est pas la prise du pouvoir chez les anarchistes, c'est la destruction du pouvoir.
On continue d'avancer si vous voulez bien, à pas de géant, pardon de le faire. On est en 1914, c'est la guerre, et vous dites que ça marque un point d'arrêt majeur pour la montée de l'anarchisme.
Oui, de deux manières, c'est-à-dire que 2 ans auparavant, il y a eu les événements ou ce qu'on a la geste des bandits tragiques, plus connue sous le nom de bande à Bonneau, qui ont permis une dernière fois de caricaturer le mouvement révolutionnaire libertaire. Et au moment où éclate la Première Guerre mondiale, en quelque sorte, il y avait ce qu'on a appelé les fameux carnets B, c'est-à-dire où était consigné le nom de tous les révolutionnaires et les syndicalistes qui étaient menacés d'être mis en prison et arrêtés en cas d'opposition à la guerre. Et effectivement, la guerre vient un peu poser, comme ça, en faisant enrôler de force les travailleurs, vient un peu poser une chape de plomb et casser le mouvement révolutionnaire.
Alors, juste après la Grande Guerre, le mouvement anarchiste va reprendre du poil de la bête, notamment au Mexique, aux États-Unis, mais surtout en Russie. 1917, c'est la révolution russe. Et là, les anarchistes ont tout pour croire que leur idéologie va enfin s'imposer. Et pourtant, on connaît la suite. Pourquoi ça n'a pas réussi ?
Alors, d'abord, attention, ça a réussi. Ce sont des stratégies anarchistes qui sont mises en place en 1917. C'est une stratégie insurrectionnelle. Le mot d'ordre qui est mis en place en 17, tout le pouvoir aux soviets, est vraiment un mot d'ordre, disons, libertaire. Il y a la prise de pouvoir qui a lieu des bolcheviques et puis ensuite des staliniens. Alors, les anarchistes sont aux avant-postes de la révolution russe. Ils sont aussi les premières victimes la répression intérieure, puisqu'ils sont les premiers à dénoncer la dérive du pouvoir bolchevique et évidemment à annoncer la dictature stalinienne.
Allez, on continue de faire des grands pas dans le temps. On va aller directement dans les années 30, où vous expliquez, Tancrède Ramonet, que les anarchistes déclinent et que le capitalisme prend un tour qui fait froid dans le dos.
Mais loin des banquettes de Moleskine, le mouvement libertaire, déjà très affaibli, voit se dresser dans toute l'Europe une nouvelle menace. Car face à la foule des tentatives révolutionnaires, pour égarer un peu plus les travailleurs, fascinés de sous-prolétariat et rassurer la petite bourgeoisie, le capitalisme a décidé d'arborer son masque le plus spectaculaire, le fascisme.
Est-ce que le mouvement anarchiste a survécu à la Seconde Guerre mondiale ?
Alors oui, il a survécu. Je fais juste remarquer qu'on voit très bien, par exemple, là, dans ce qui est dit, la stratégie qui est celle aussi du Front National aujourd'hui, d'égarer le prolétariat en lui faisant croire que ses intérêts sont des intérêts identitaires, alors que ses intérêts sont des intérêts sociaux, et que c'est sans doute dans la lutte des classes qu'il peut avoir une solution à ces problèmes.
C'est l'instant prosélyte de ton crâne.
Mais donc voilà, le fascisme arbore, enfin fait essaye toujours de manipuler. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'anarchisme traverse pendant un temps ce qu'on a appelé la longue nuit de l'anarchisme, c'est-à-dire qu'il disparaît un petit peu. Il a été écrasé en Espagne, hein, où il était là aussi majoritaire. Et puis, à partir de 1968, il va renaître dans le monde. Ses slogans vont être redécouverts. La jeunesse va redécouvrir l'anarchisme. Et il va devenir le courant de pensée pratiquement majoritaire à nouveau.
Alors, n'allez pas trop vite parce que je voudrais vous faire écouter ça.
Il n'y en a pas sur 100, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes.
On vient de l'entendre dans la voix de l'indispensable Léo Ferré. L'Espagne a été l'un des très hauts lieux de l'anarchie en Europe. Pourquoi en Espagne plus qu'ailleurs ?
Je fais juste une petite anecdote auparavant. Léo Ferré avait écrit cette chanson pour la présenter à la Mutualité dans un concert de soutien au Monde Libertaire. Et au moment où il entame le troisième couplet, on est en mai 68, on annonce que les étudiants sont expulsés de la Sorbonne. Et Léo Ferré, plutôt que de continuer son gala, propose aux militants qui sont rassemblés dans la salle de Mutualité de se joindre aux étudiants. Et c'est pour ça que ce soir-là, dès le début, on a vu autant de drapeaux noirs dans les manifestations de 68.
Alors vous entendez l'indicatif derrière moi qui indique que le temps va nous manquer. Je vous remercie infiniment d'être passé par ici. Votre documentaire est diffusé ce soir à 20h50 sur Arte. C'est la fin de l'Instant M. Bonjour Thomas Chauvineau.
Bonjour Bruno.
Avec quel thème